Un sol majeur.
On l'imagine porter une khamsa contre le mauvais œil, faire le pain farci avec les amandes pour Kippour, avoir les jours de fête l'allure d'une princesse andalouse qui met le rôle à l'intérieur de l'œil comme les Arabes et non à l'extérieur comme les Occidentales, faites voir. Ouais. On imagine Eliette Avekassis, juive française séfarade, le jour du oui, prête à revêtir la robe de mariage.
La voilà donc devant elle, cette massive parure rouge rubis dont la jupe est brodée de fil d'or. Elle pesait des kilos, il faisait chaud, mais elle allait la mettre, elle allait la porter. C'était évident, comme le jour qui se lève et la nuit qui tombe, aveuglant comme le soleil en ce jour de juillet. Cette robe, spécifiquement juive, avait ses origines dans l'âge d'or espagnol, d'avant l'Inquisition, où les juifs étaient conseillés à la cour des rois. Elle avait survécu aux siècles d'oppression et au terrible exode qui força les juifs à quitter leur terre natale. La robe perpétuait le faste castillan et andalou de la Renaissance.
Merci Eliette pour cet extrait de votre roman Séfarade, donc où l'on surprend votre héroïne Esther dans ce moment fort, dans ce moment symbolique, celui où elle revêt la parure des ancêtres. Vous avez eu aussi à vivre ce moment ?
Absolument, oui. J'ai, pour la cérémonie du henné, donc avant le mariage, qui correspond à un rite de purification, et c'est comme des sortes de fiançailles, j'ai revêtu cette lourde robe qui m'a été prêtée par ma belle-sœur qui la tient elle-même d'une grande tente, etc. Et c'est vrai que ça fait tout d'un coup un effet bizarre parce qu'elle est vraiment lourde. Elle est faite de, il y a 7 composantes dans cette robe avec des manches qu'il faut rajouter, un diadème, etc. Et on a l'impression tout d'un coup d'être revêtu du poids de tradition, sur qui pèse comme ça sur la femme, ces femmes qui ont vécu dans leur robe, dans leur cuisine, à préparer la cuisine pendant des heures et des heures. Et ça fait plaisir en même temps d'être habillée comme une princesse andalouse, et en même temps c'est un petit peu inquiétant.
Et ça vous a inquiété.
Oui.
Vous avez pris la poudre d'escampette. Vous avez tout arrêté, annulé le mariage.
J'y ai pensé. J'étais prise de panique en revêtant cette robe, et je me suis dit non mais ça va pas. Je suis une jeune femme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Pourquoi est-ce que je me marie dans la tradition avec un juif du Maroc en plus, peut-être pas de la même ville que celle de mes parents. Mais bon, est-ce que c'est pas justement tout le passé, tout le poids de la tradition qui me rattrape et il faut que je me libère? Et finalement, je ne m'en suis pas libérée.
Pourtant, vous avez, on l'a dit un peu en début d'émission tout à l'heure, du bout des lèvres, vous avez quand même vraiment pensé à vous émanciper de cette tradition.
Oui, parce que c'est une tension permanente en fait. C'est à la fois ce qui me donne mon identité, mais c'est aussi ce qui fait que j'ai l'impression que les choix que j'ai faits, notamment celui de mon mariage, n'était donc quand même, c'est des choix importants, c'est des choix de vie, n'étaient pas libres mais dictés par je ne sais quel ancêtre qui parlait à travers moi et je ne sais quelle grand-mère qui me disait tout bas, voilà ma fille, tu passeras comme moi ta vie dans la tradition, presque pas dans ta cuisine mais en fait à élever tes enfants. Donc c'est vrai que c'est source de conflit et ça a été un chemin pour me réconcilier avec la tradition.
Chère Eliette, vous avez demandé dans votre programme musical quelqu'un d'autre qui est fleur bleue aussi, tiens, un peu comme Goldman, maintenant ça me saute aux yeux, c'est Juju, alias Julien Clerc avec Restons amants.
J'adore la chanson française et je trouve que les paroles de cette chanson sont sublimes et l'interprétation qu'en fait Julien Clerc aussi, oui c'est vrai, c'est mon côté fleur bleue.
Qu'un jour les choses, le temps parose, les événements nous imposent. La fin des sentiments, qu'un jour se suivent les invectives, les égarements, la dérive. chacun séparément. Quoi qu'il arrive, restons amants. Restons amants des hôtels sombres, des rendez-vous dissimulés, où vont s'entrelacer les ombres, aux dangers mélangés. Restons amants des plages vides, où novembre sait nous jeter. Laissons frémir aux vents avides les lèvres dérobées. Même si se tiennent ta main, la mienne, pour la fin des temps que nos vies deviennent, celle de tous les gens, il a haine de ton sang.
Aïe, 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 c'est le mauvais œil qui est passé.
C'est sûr.
Julien Clerc en sol majeur dans le programme d'Eliott Abécassis. Une cérébrale au sang chaud, une séfarade française qui ne donne pas à tout le monde sa recette de la daffina.
Vos parents viennent dîner à la maison. Que leur cuisinez-vous?
Je leur cuisine un tagine. Parce que, d'abord, c'est très rare de pouvoir faire un tagine aujourd'hui, parce qu'il faut 5 heures pour faire un tagine. Enfin, il faut 5 heures de cuisson à feu doux.
Vous êtes une femme moderne, vous n'avez pas 5 heures devant vous, c'est pas possible.
Oui, mais je suis un écrivain, donc j'écris à la maison, et c'est là ma force sur les autres femmes.
Donc ça mitonne pendant que vous écrivez.
Voilà, exactement, et puis je peux y aller comme ça, toutes les demi-heures, vérifier que ça ne brûle pas.
Donc le tagine, lequel?
Alors, le tagine de poulet au pruneau, c'est ma spécialité. Donc, je fais revenir les morceaux de poulet dans de l'huile avec des petits oignons. Et puis après, eh bien, je mets ça dans mon tagine. J'ai un grand tagine que j'ai acheté au Maroc en terre cuite, que je mets sur le feu, comme ça, à feu très doux. Et je mets, en fait, le ras el hanout, que j'achète aussi au Maroc souvent. Bah, alors là, c'est extraordinaire, parce que je pense qu'il y a 25 épices dans un petit sachet mélangé.
C'est les épices qui aident à faire le couscous, hein, aussi.
Ouais.
Pardonnez-moi.
Bah oui, oui. Mais c'est des épices fabuleuses, quoi, parce que c'est ça qui donne tout le goût. Ça mijote, et puis je rajoute les pruneaux au bout de 2-3 heures, sinon ils se délitent trop, donc il ne faut pas les mettre tout de suite. Et voilà, tout ça mijote à feu très doux, un petit peu comme dans mon roman qui a mijoté à feu très doux pendant des années et des années. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup préparer ça.
Donc vous le faites à l'ancienne.
Oui.
On est bien d'accord. Et alors la daffina, qui est le plat traditionnel du Shabbat, c'est le plat aussi qui résume peut-être le mieux le monde séfarade.
Oui.
La meilleure daffina, c'est celle de maman?
Ben oui, forcément. Bien sûr. Chaque mère a la sienne, mais c'est vrai qu'on reste attaché à la daffina de sa mère.
Est-ce qu'elle vous a transmis la recette?
Oui, avec ses secrets, parce que chaque mère a ses secrets. Je ne crois pas que je puisse les dévoiler ici à l'antenne, sinon elle va me tuer. Mais je dirais simplement qu'en fait, il faut qu'elle soit bien brune, la daffina. Vous savez, c'est aussi un plat. Alors là, il mijote toute la nuit, une nuit entière, puisqu'on le fait le Shabbat. Et donc, avec tous ces éléments qui ne sont pas du tout en accord avec la cuisine light française d'aujourd'hui, puisqu'il y a à la fois des pois chiches, des pommes de terre, du riz, évidemment, de la viande, du blé et des œufs. Et tout ça mijote ensemble avec beaucoup d'épices. Et puis, on peut mettre un petit sachet de thé pour donner son côté marron à la daffina. C'est un des secrets que je peux divulguer.
Choukran. Prendre racine, ça signifie quoi pour vous?
Prendre racine, c'est-à-dire que là, je pense, je suis née avec des racines. Alors, je les prends pas les racines. Peut-être que je les arrache parfois pour m'en défaire. Prendre racine, c'est vraiment, voilà, c'est, C'est la façon dont j'ai été éduquée par des parents déracinés, mais qui ont pris racine en Alsace et puis qui nous ont transmis vraiment l'importance de la racine. Et c'est important, en fait, de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est et où l'on va.
Il paraît. Il y a cette phrase dans votre roman, Eliette. En France, le juif marocain en est encore à se demander s'il est marocain, français ou juif. Est-ce que vous aussi, vous êtes encore en train de vous le demander, ça ?
Non, parce que je ne vis pas je ne vis plus comme une tension, c'est-à-dire je suis vraiment pleinement française et puis voilà, pleinement marocaine, séfarade, pleinement juif. Ça ne devrait pas, en tout cas, poser de problème. Ça l'a posé effectivement quand ces juifs marocains sont arrivés comme mes parents et puis avec ce désir d'intégration, cet amour de la France incroyable. Ils citent Racine dans le texte et donc effectivement, hein, en même temps. Pour épouser complètement la culture du pays, ce qui est très séfarade d'ailleurs, de s'ouvrir complètement à la culture du pays au point de la forger, enfin d'y contribuer activement. Pour faire cela, il a fallu peut-être mettre un voile sur un certain passé, parce que c'est très dur d'être un déraciné, c'est très dur de quitter son pays.
Alors pour écrire le scénario, je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez écrit le scénario de Kadosh d'Amos Gitai. Vous vous êtes installé plusieurs mois en Israël, il y a à Bekassis, dans le quartier ultra-orthodoxe de oui. Jérusalem. Donc c'était l'expérience à la fois professionnelle et humaine d'une séfarade en Israël. Comment vous l'avez vécu et est-ce que ça vous a transformé ?
Oui, parce que ça m'a confrontée à quelque chose d'extrême, une limite, c'est-à-dire ce monde ultra-orthodoxe qui n'est pas le mien. Et justement, je me suis sentie très séfarade parce que les séfarades, à l'inverse des ashkenazes, je veux dire dans leur rapport à la religion, sont très mesurés. Ils sont pratiquants, mais ils détestent les extrêmes. Donc tout est toujours matière à discussion, à aménagement, de telle façon à ce que la religion, comment dire, soit plaisante au quotidien, parce que il y a vraiment un sens de la fête et de la joie très fort chez les séfarades. Alors que là, on avait un milieu ultra-orthodoxe venant du monde ashkenaz, même si beaucoup de séfarades l'épousent, qui est austère, qui est difficile, qui a ses côtés positifs, mais qui est quand même très, 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 très extrême. Donc c'est vrai que c'était une expérience intéressante aussi pour ce qui est du statut de la femme dans la religion et puis la façon dont parfois les hommes se servent de la religion pour asservir les femmes.
Vous parlez très bien de la ségrégation que les Ashkénazes font subir aux séfarades qui font, dites-vous, trop arabes. Hein. Est-ce que, je ne sais pas si je vais pouvoir la poser avec le sourire, cette question, est-ce que vous avez pu penser parfois que si les séfarades avaient pris le pouvoir en 48, la donne aurait été différente avec les pays voisins ?
Oui, je pense, parce qu'il y a eu, je pense, un véritable problème de communication, parce que les Ashkenazes ont un rapport occidental à la vérité, à la langue, à la façon de parler, que les Orientaux n'ont pas, et je pense qu'entre les séfarades qui ont vécu avec les Arabes quand même d'une façon relativement vraiment pacifique, même s'il y a eu des heurts et des tensions, il y a un langage commun, un langage qui est fait même de quand on voit quelqu'un lui proposer à boire, à manger, le thé. Ça, c'est peut paraître dérisoire, mais c'est tellement important pour les Orientaux. L'hospitalité, la politesse, il faut jamais froisser l'orgueil d'un oriental. C'est ce qu'il y a de pire. C'est la même chose chez les séfarades, chez les arabes, chez les orientaux. Et ça, les ashkenazes ne l'ont pas compris. Donc il y a tout un facteur psychologique qui leur a totalement échappé et qui a fait que les choses ont dérapé de façon si dramatique.
Donc vous êtes, vous l'avez dit, très française, très orientale aussi, très séfarade. Donc est-ce que vous avez déjà été tentée par le fait de vivre en Israël ?
Bien sûr, parce que c'est une expérience étonnante que celle de voir tous ces gens venir de pays tellement différents, de la Russie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique, et que c'est très enthousiasmant de les voir tous vraiment dans un melting pot vivre ensemble et de vouloir rejoindre cette aventure collective.
Alors pourquoi vous n'y vivez pas ?
Bizarrement, à chaque fois que je vais en Israël, je me sens tellement française que c'est très difficile. Donc, je me dis...
Et donc tellement séfarade aussi, parce que la aussi. France, vous dites que c'est peut-être le lieu où la culture séfarade peut le mieux s'épanouir.
Oui, en tout cas, oui, c'est vrai, je ne sais pas le mieux. Au Canada aussi, elle s'est beaucoup épanouie, mais c'est vrai qu'elle s'est plus épanouie qu'en terre d'Israël. Donc voilà, c'est... en tout cas, ça reste un horizon toujours possible.
Musique, Eliette, vous aimez votre prénom alors maintenant, hein ? Vous avez mis du temps.
Hein ? J'ai mis du temps. Hein ? C'était un prénom bizarre.
Il y a dans votre programme la bande originale du film « Je l'aimais » de Krishna Levy.
Oui.
Vous n'écoutez jamais de jazz norvégien, des trucs comme ça. Pourquoi cette bande originale ?
Parce que elle est très... j'ai adoré le film. Je trouve que Krishna Levy a fait une musique qui touche le cœur avec des notes vraiment qui donnent des frissons. Voilà.
L'amour à Hong Kong, la bande originale du film « Je l'aimais » de Krishna Levy en sol majeur dans le programme de notre invitée Eliette Abekassis, une romancière qui revisite l'âme séfarade en sol majeur.
Quelle est votre ville de cœur ?
Alors, Essaouira, Mogador, la ville de mes ancêtres, c'est une ville... absolument étonnante, avec ce vent comme ça qui la fouette. J'y ai beaucoup de souvenirs d'enfance parce que j'y ai passé beaucoup d'été, du temps où c'était pas encore à la mode là comme maintenant. Et c'était tellement en fait plein de saveurs, les sardines grillées sur le porc, d'odeurs, celle du tuya dans les rues où on fait comme ça des boîtes et puis des meubles en tuya. Et puis aussi les rues des bijoutiers, le souk avec les épices.
Bon, on va se promener deux secondes avec vous dans Essaouira au gré d'une bande son que vous allez nous commenter, Eliette. Vous avez déjà commencé d'ailleurs.
Voilà, c'est des mouettes sur le port. Ah ben voilà, ça c'est ce qu'ils font les meubles. Ouais.
Thank you.
s'appelle Souk.
Ouais.
Vous y êtes?
Ouais.
Vous le voyez?
Ah oui.
Il est comment?
Bah, il est pas très grand. C'est comme ça sur une place carrée. Puis il y a des petites rues adjacentes.
C'est l'heure de la prière, Elliott ouais. Abécassis. Ça vous laisse silencieuse, muette. Et oui, le muezzin des Sawira.
Ouais. Hmm?
Est-ce que vous avez la sensation, comme vos parents, que c'était un peu votre ville, j'emploie le vous communautaire exprès, et que vous avez perdu, oui. vous aussi, cette ville?
Spécifiquement cette ville, puisque c'était, je crois, la seule ville où il y avait une majorité de juifs, énormément de synagogues, il en reste quelques-unes qu'on peut visiter. Et les juifs ont quitté la ville, hein. On ne les a pas chassés, et, ils sont partis... à la fin des années 50, en gros. Et effectivement, il y a toute une culture mais ancestrale qui, d'un coup, a été perdue, s'est rompue, qui reviendra sans doute plus jamais, si ce n'est à travers ce qui reste d'eux dans cette ville où ils étaient effectivement bijoutiers, où ils faisaient tous ces métiers-là.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
Alors, l'autre langue, l'espagnol, je pense. Je pense dans l'autre langue, quand j'entends la musique ladino, j'aime beaucoup l'écouter. Et là, je m'évade vers mon âme espagnole. Peut-être qu'elle est, même si ça date d'il y a très très longtemps, je crois que à chaque fois que je vais en Espagne, alors là, vraiment, j'ai un sentiment d'être un peu chez moi. Et mes parents aussi, même s'ils n'y ont jamais vécu. Mais ça, c'est vraiment l'âme séfarade. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est resté, qui fait que les Espagnols sont mes frères, que je me sens vraiment à l'aise, comme si je retrouvais une vie passée.
Sinon, vous parlez bien sûr l'hébreu?
Oui.
L'arabe, un petit peu?
Non, je connais quelques proverbes, mais...
Ça ponctue de temps en temps votre écriture,
ah
hein?
Oui, oui, oui. Les mots, les interjections en arabe, bien sûr, ça...
Comme quoi?
Les mots d'amour aussi en arabe, beaucoup, Nabi Basque, Dismik.
Et vous aimez bien ce mélange d'hébreu et d'arabe qui
oui.
a résisté et au temps et à l'histoire?
Oui, 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 je trouve ça très beau. J'espère que, je ne sais pas si ça résistera, mais j'aime beaucoup effectivement ce mélange des langues. Et puis... qui était présent aussi dans le judéo-arabe que parlaient mes grands-parents.
Alors être séfarade, c'est aussi un certain rapport à la parole. Vous écrivez dans votre roman, Elliott, séfarade, faire semblant, ne pas dire ce qu'on pense et ne pas penser ce qu'on dit, dire une chose et en faire une autre, faire 1000 promesses et ne jamais les tenir, donner des rendez-vous et ne pas venir. Ce rapport à la parole qui fait qu'elle était vraie sur le moment, mais plus le lendemain. Pour le séfarade, la parole est intimement liée au temps, alors que pour l'occidental, la parole lutte contre le temps. Elle est ce qui perdure dans le fleuve d'Héraclite.
Oui, c'est vrai que ça a un rapport vraiment très différent à la parole et à la vérité.
Vous êtes une orientale, alors, pour la question
non,
de la parole ou pas?
Non, mais je vous ai dit, non, je suis plutôt occidentale. C'est-à-dire que je me fais un point d'honneur d'être toujours ponctuelle, de ne pas mentir, de quand je dis quelque chose, je le pense, de ne pas être hypocrite. Je lutte contre ça.
Donc vous êtes une moitié de séfarade, alors.
Voilà, c'est ça. J'essaye de prendre les bons aspects.
En sol majeur, @rfi.fr.
Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre Facebook et notre blog J'ai deux amours pour y déposer vos témoignages de double, triple culture. Allez-y, lâchez-vous. Sous la forme d'un récit, d'une anecdote, vous nous racontez votre propre expérience sur deuxamours.blogs.rfi.fr. Merci Elliott Abécassis.
Merci à vous.
Je rappelle que votre roman Séfarade est paru aux éditions Albin Michel.
Oui.
Et puis on se quitte debout sur le zinc.
Oui.
C'est le nom. C'est le nom du groupe qui va... Pardon, j'en cogne le micro. Qui va refermer cet en sol majeur. C'est un choix étonnant, ça.
J'adore ce groupe. C'est un groupe qui mélange justement plein d'influences musicales, aussi bien orientales que klezmer, avec le rock français.
Vous êtes rock ?
Bah, rock français, j'adore. Ah, et là... c'est vrai.
Vous le cachez bien.
Non, non, je cultive mon côté rock, rock and roll. C'est important quand même d'être belle quand on écrit.
Debout sur le zinc dans le programme en sol majeur d'Eliette Abécassis. Caroline Filliette, Marc de l'Ouvrier, Jean Dufay, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain autour d'une âme tourmentée, résistante, celle du photographe haïtien Gérald Bloncourt. À demain.